La parole à Madame Daphna Hacker pour 6 minutes sur cette partie 4, articles 15 et 16. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Une nouvelle fois, je souhaite la bienvenue à la délégation, même s'il est tard dans la journée. Je salue Madame Badanarana qui apporte des contributions inestimables au comité. En ce qui concerne l'article 15, le comité félicite l'État parti qui a mis en œuvre sa politique sur l'aide juridictionnelle intégrée. Il a également mis en place un projet de réforme institutionnelle pour améliorer l'accès à la justice. Il a également créé 175 guichets pour les Dalits pour améliorer l'accès à la justice. Je remercie la délégation qui nous a présenté des chiffres sur les personnes qui ont bénéficié d'aide juridictionnelle au cours du dernier exercice financier. Toutefois, je dois reconnaître que ces chiffres absolus ne présentent qu'un aperçu incomplet de l'impact des efforts de l'État parti visant à garantir l'aide juridictionnelle pour les femmes qui en ont besoin. Pourriez-vous nous dire qui est éligible pour obtenir une aide juridictionnelle? Pour quelle question juridique? Est-ce que l'aide juridictionnelle inclut l'assistance pour la négociation et la représentation au tribunal ou uniquement une consultation? L'État parti sait-il quel est le pourcentage des femmes qui participent aux procédures judiciaires qui ne sont pas représentées par un avocat, surtout dans les procédures pénales et dans les affaires familiales? Et comment les femmes, et surtout les femmes des communautés marginalisées comme les femmes dalites, apprennent-elles qu'elles ont le droit de bénéficier d'une aide juridictionnelle? L'aide juridictionnelle est-elle fournie en tenant compte des questions de genre? Par exemple, les prestataires de l'aide juridictionnelle ont-ils l'obligation de suivre une formation sur les questions de genre ou des programmes de sensibilisation mettant l'accent sur les droits des femmes? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour fournir une aide ciblée aux femmes marginalisées qui sont victimes de formes intersectionnelles de discrimination, notamment les travailleuses du sexe et les femmes migrantes, pour qu'elles puissent accéder à une aide juridictionnelle gratuite? Les non-citoyens sont-ils également éligibles pour obtenir une aide juridictionnelle dans certaines circonstances? En ce qui concerne l'article 16, l'État parti peut-il nous présenter toutes les mesures concrètes qu'il prend pour identifier et lever les obstacles à la pleine mise en œuvre de son interdiction du mariage des enfants? Pourriez-vous nous présenter les indicateurs de succès de cette politique, surtout au sein des groupes marginalisés, des femmes pauvres, dalites, rurales, etc. Au cours de l'exercice financier 2022-2023, seuls 52 cas de mariage d'enfants ont été gérés par la police népalaise. Qu'est-ce qui explique ce fossé significatif entre la prévalence très répandue du mariage d'enfants et le faible taux d'exécution? Le cadre juridique actuel incrimine le mariage d'enfants. Il est donc possible de poursuivre des enfants qui se marient. Quelles sont les mesures que l'État parti a adoptées pour protéger ces enfants face à des poursuites? Les personnes de moins de 20 ans sont-elles en réalité poursuivies? Quelles sont les mesures qu'a adoptées l'État parti ou quelles sont les mesures qu'il prévoit d'adopter pour éliminer la pratique de la dot? Pourriez-vous nous dire quel est le statut juridique des mariages homosexuels et des mariages de personnes LGBTQ? Quel est le sens du registre distinct? Et ai-je bien compris que cet enregistrement ne donne pas aux couples homosexuels les mêmes droits légaux et la même reconnaissance qu'aux couples hétérosexuels, notamment en matière d'héritage, d'allocation, d'adoption, etc. Quelles sont les mesures que vous avez, qu'ils avaient adoptées pour garantir la sécurité des couples intercastes, plus particulièrement avec des personnes dalites, face à la violence et aux réticences de la société? Pourquoi les dispositions du Code civil sur le mariage automatique, une fois qu'une femme est enceinte, n'ont-elles pas encore été abrogées? Quelles sont les mesures qu'a adoptées l'État parti pour appliquer l'interdiction des mariages non enregistrés, de la polygamie et du talak, et pour protéger les droits des femmes dans ces mariages une fois qu'ils sont dissous? Alors, quelles sont les mesures juridiques qui sont en place pour protéger les droits des femmes dans des mariages non enregistrés, une fois que les mariages polygames ou non enregistrés sont dissous? Prévoyez-vous introduire une obligation d'enregistrement de tous les mariages, notamment des mariages religieux et coutumiers. Quelles sont les mesures qu'a adoptées l'État parti ou quelles sont les mesures qu'il entend adopter pour éliminer la discrimination et garantir l'égalité pour le choix des noms de famille et des adresses des femmes et des enfants? Pourquoi le droit de la mère à la garde de ses enfants est-il conditionné au fait de ne pas se remarier et l'État parti entend-il éliminer cette discrimination et cette pratique néfaste? Pourquoi les motifs de divorce sans consentement mutuel sont-ils différents pour les hommes et les femmes? Et pourquoi les droits de propriété des femmes dépendent-ils de leur comportement dans les affaires de divorce? Que prévoit l'État parti pour garantir une égalité en matière de droit au divorce et de droit à l'égalité dans les biens familiaux en cas de séparation? Et enfin, quelles sont les mesures qu'a adoptées l'État parti pour garantir la pleine application de l'égalité de droit des femmes et des hommes d'hériter de biens, notamment de terres, et ce plus particulièrement pour les femmes handicapées et les femmes LGBTQ?